Celui qui lit ce texte-là du Rambam, il prend les choses superficiellement, il pense que c'est une raison très faiblarde. Et quasiment, c'est pas vraiment convaincant. Et il dit, et la vérité c'est que ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre vraiment ce que le Rambam veut dire par là. Mais après avoir réfléchi, on voit qu'il y a là un dévoile, de très grands dévoilements, très puissants, et il s'agit de lire ce que dit le Rambam ici, de la même manière qu'on lirait par exemple le Sefer Shara Kedusha de Rav Chaim Vital, qui parle de choses très très élevées, qui dévoile là-bas des Gilouyim, des dévoilements, comment Hachem se dévoile dans le monde de façon absolument extraordinaire. Et c'est des choses, il n'y a que dans le Sefer HaKedusha de Rav Chaim Vital que les choses, certaines choses sont dites. Et voilà, ici maintenant, Mashigilala nous, ce que le Rambam nous a dévoilé ici avec ces quelques mots, je vais le lire sur le mode de la lecture de ce Sefer de Rav Chaim Vital de Shara Kedusha. Ça veut dire on s'occupe ici, dans ces deux parshiot complètes de Tazria et Metzora, on parle de questions de simanim de Touma, des signes d'impureté. On parle par exemple des quatre sortes de negaïm, quatre sortes de formes de, on va dire, lèpre. C'est bien sûr pas la maladie lèpre, mais comme c'est quelque chose qui existe aussi sur la peau, en vérité, il n'y a pas seulement la lèpre de la peau. Comme vous savez évidemment, il y a aussi la lèpre sur les vêtements, il y a aussi la lèpre sur les maisons. Donc, si vous voulez, on peut dire c'est les trois enveloppes du corps humain. Sa peau, ses vêtements et sa maison. D'une certaine manière, certaines conduites de l'homme vont amener Hachem à lui envoyer des messages qui seront ou sur sa peau, ou sur ses vêtements, ou sur sa maison. Et donc, il y a quatre sortes de negaïm, Seth, Baeret, Sapachat. Et il y a donc Sapachat à Seth et Sapachat à Baeret, en fait. C'est les simanim de Touma, c'est les signes d'impureté. Cette lèpre, c'est en fait une forme d'impureté. Sa conséquence, c'est pas une maladie, hein, sa conséquence, ce sera que celui qui est frappé de la lèpre, il va être mis en quarantaine. C'est un peu de, voilà. La quarantaine non plus, c'est pas non plus, c'est comme la nôtre, elle est d'une semaine d'abord et éventuellement de deux semaines. Et là, on nous dit, la Touma, bien sûr, elle a des signes. Elle a les signes de Touma. Et les différentes sortes de Negaïm sont des signes d'impureté. Et Chazal ramène des choses, et Rashi le ramène aussi, que Negaïm em siman le gassot aruach. Que les Negaïm, c'est donc le pluriel de Nega, on va dire lèpre, mais je dis une fois pour toutes, c'est pas la maladie, c'est les manifestations. Un peau sur la peau, ça se manifeste comme de la lèpre. Sur une maison, par exemple, on dit aussi en français une maison lépreuse. C'est une maison qui a l'air d'être malade, en quelque sorte. Il y a des moisissures ou des... Pour les vêtements, j'ai jamais entendu dire des vêtements lépreux, mais peut-être ça existe aussi. C'est aussi une façon de dire ces vêtements qui sont en train, d'une certaine manière, on a l'impression qu'ils sont en train de pourrir. Alors, les Chazal disent que les Negaïm sont un signe de Gassout Aruach. Gassout Aruach, littéralement, ça veut dire l'épaisseur d'esprit, et l'épaisseur d'esprit, c'est l'orgueil. C'est les signes d'orgueil. C'est aussi des signes de Lachonara. Ça vient sanctionner le Lachonara. Gassout Aruach et Lachonara ont donc des des signes. C'est-à-dire que même si l'homme ne se rend pas compte qu'il a une attitude orgueilleuse ou il se rend pas compte qu'il dit du lashon hara, alors quand on était dans un certain degré de proximité avec Hachem, Hachem envoyait un message. Et le message, c'était Negaïm. On a vu dans Parshat Shmini, on a parlé de Simanim, de Tara et de Touma, dites sur les volatiles et sur les animaux. On appelait ça des Simanim de Touma. Mais là-bas, le mot Touma, en fait, c'était un peu surprenant parce que dans Shmini, le mot, quand on parlait d'une BMA Temea, c'était pas une BMA qui était impure, au sens où elle aurait d'une impureté, parce que il y en a une règle générale que le vivant n'est jamais impur, sauf que le seul être vivant qui peut devenir impur, c'est l'homme. Mais un animal ne peut pas devenir impur. Sa charogne, le cadavre peut devenir impur, mais jamais le vivant. Donc là-bas, on appelle Béhéma Tmea, c'est une Béhéma qu'on n'avait pas le droit de manger. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas la manger, c'est que ça a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de l'impureté. La même chose que l'impureté. On a dit effectivement ailleurs que des simanim de Touma, c'est pas simplement un souvenir ou quelque chose qui arrive un peu par hasard, mais ces simanim, ces choses-là, il faut les prendre comme un signe, un message. La Touma, elle a bien effectivement des simanim. Alors le chidouche ici, c'est que la Tahara aussi elle a des simanim. La pureté aussi elle a des simanim. Elle a aussi des signes. Alors les choses sont comme ça, en fait, dit Rabbi Roucham. Une Béhéma Tmea, elle a, comme on l'a dit, des signes. Et elle est reconnaissable, le sabot fendu, il faut ruminer, etc. Mais en vérité, ce sont des choses qui semblent complètement extérieures. Mais on veut parler ici de quelque chose de choses qui sont bien plus profondes. Une Béhéma Tmea, elle a ces fameux deux signes d'impureté, et l'homme, lui, il a quatre signes d'impureté. Asimanim ha'eluhem hem simanei ha'touma, ce sont les signes qui montrent, qui manifestent vers l'extérieur. Ces simanim sont les simanim qui indiquent qu'il y a de la touma, il y a de l'impureté là. Le Ramban nous dévoile que la Kdusha, elle a aussi des simanim. Il y a aussi des signes extérieurs de Kdusha. Le sujet Kdusha, c'est quelque chose qui est tellement élevé que même dans le Lashon, c'est difficile à dire, en fait. Il y a un Lashon de Kdusha. Chez Kdusha, Yeshla Lashon Bifne Atzmo. La Kdusha, elle a un langage approprié, un langage spécifique. C'est ce que le Rambam dit ici, que tu ne trouveras pas dans cette langue de la Kdusha, il y a des expressions concernant justement pour lui, pour le Rambam, tout ce qui est de la sphère de la sexualité. On ne trouve pas ces expressions direct, toujours par périphrase. Le Rama ne veut pas dire que c'est pour ça que ça s'appelle la Shona Kodesh. Le Rama veut seulement dire ici que c'est la Shona de Kdusha et elle a des simanim, il y a des signes pour la reconnaître. Mais elle n'est pas Kdusha à cause de ça. Ce sont des signes qui nous disent que c'est une langue de Kdusha, mais c'est pas ça la raison pour laquelle il y a de la Kdusha. on trouve pas certaines choses, l'absence de certains termes, si vous voulez, c'est un signe de Kdusha. Comme par exemple l'absence de sabots fendus, c'est un signe de la tahara de la bête en question. Donc l'important ici, c'est cette idée que ici Rabbi Yochanan Leibovitz développe, que à partir du Rambam, il y a une notion de signe en fait. Alors il dit, le Rambam dit Al tarchov kizeh asher korim anu et leshonenu leshon hakodesh, ne pense pas du tout que la raison pour laquelle nous nommons cette langue, la notre langue, leshon hakodesh, c'est par orgueil, parce qu'on est, ou bien parce qu'on se trompe. Non, c'est comme ça que ça doit être dit. Cette langue-là, elle est kadosh. Parce que tu y trouves pas les mots très clairs, ou des mots très clairs sur ce sujet-là. Donc, dans chaque geste, chacun de nos gestes, en fait, il y a un signe qui nous dit est-ce que ce geste-là est un geste de Kedusha ou est-ce qu'il n'en est pas? Ou bien est-ce un geste de Touma? Parce que, en fait, ce sont deux mondes complètement différents, le monde de la Kedusha, le monde de l'impureté. Ce sont des mondes complètement différents. Atchigam Belachon, beaucoup la kimen, au point que c'est pas la même langue. La Kedusha, elle a sa langue, et la Touma, elle a sa langue. Donc, à plus forte raison, si ça va jusqu'à la langue, plus forte raison, effectivement, qu'il y a des actes qui sont de l'ordre de la Kedusha et des actes qui sont de l'ordre de la Touma, bien sûr. Ça va jusqu'à la langue. Au tout début du Sefer Vayikra, marqué Vayikra El Moshe. Les Chazal disent, Rashi le ramène, que Vayikra, cet appel, c'était un signe d'amour qu'Hachem envoyait à Moshe. Et Rashi rapporte que Vayikra, cet appel-là, cette notion d'appeler, c'est en fait la langue qu'utilisent les anges de service entre eux. Et Moshe Rabbeinu Hashem lui a parlé le langage de l'amour, alors que, comme Rashi le montre, aux prophètes des nations, c'est-à-dire à Bilam essentiellement, Hashem se dévoile à lui, mais les choses, ce dévoilement, il doit être vu, il doit être compris comme quelque chose de l'ordre du hasard, en quelque sorte. C'est, voilà, il se trouve que je t'ai parlé, mais ça correspond pas à un état chez toi qui justifie que je te parle. C'est pour ça que le mot, à la place de Vayikra, qui est écrit dans chez Moshe Rabbeinu, pour Bilam, c'est simplement écrit sans le Aleph à la fin. C'est la Lachon Keri, Lachon pollution en quelque sorte. C'est donc un signe de Touma. C'est dans la langue, écrire Vayikra sans le Aleph, c'est un signe qu'on a affaire avec de la Touma. Donc c'est énorme. Ça va jusque dans la Nevoa. Il y a de la Nevoa, mais il y a une Nevoa de Kdusha et une Nevoa de Touma. Ça, c'est ce que, c'est une partie de ce que dit ici, Rabbi Yochanan. C'est une première chose que je voulais, vous dire. Bien. Alors, si on prend le tout début. Excusez-moi, courage. parasha, il y a deux parashiot, donc la parasha, la première parasha, c'est Azria. Et ça commence de la manière suivante. D'abord, Hachem El Moshe, les morts. Hachem parle à Moshe Rabbeinu pour que les morts, pour que Moshe Rabbeinu le retransmette. Et il lui dit, Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël les morts. C'est-à-dire, tu vas parler au Bnei Israël et, d'une certaine manière, il faut que les Bnei Israël le répercutent. On redit les morts. Un deuxième les morts qui est dit ici, parle au Bnei Israël les morts. N'est-ce pas? C'est toujours, le Gaon de Vilna dit, chaque fois qu'on dit les morts, c'est toujours le commencement de ce qui va venir, de ce qui va suivre, en fait. Ici, Daber Hashem El Moshe, les morts. Daber El Ben Israël, les morts. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a commencé à parler avec Moshe. Quand il commence à lui parler, c'est quoi? C'est seulement Daber El Ben Israël. Et Moshe commence à parler avec les Bnei Israël, quand il leur dit, Isha Kitazria. Donc, à chaque fois, c'est comme ça. Le lien entre le sujet et l'auteur, c'est-à-dire celui qui va parler et ce dont il va parler, le lien est toujours fait par le mot les morts. C'est-à-dire, on traduit en général en disant, et ça veut dire les est mort. C'est le lamed, c'est un pour, c'est pour que tu dises. Donc ici, Rashi ramène Isha Kitazria, et Rashi ramène Amarab Simlai. Rav Simlai, il enseigne la chose suivante. Si vous voulez, je dis comme ça. Que Shem Sheyitzirato Shel Adam Achar Kol Behema Chaya Ve'Of Bemase Breshit Kach Torato Nitparsha Achar Torat Behema Chaya Ve'Of. Qu'est-ce que Rashi veut dire, enfin qu'est-ce que Rav Simlai veut dire ici? Bon, le problème, c'est étonnant. On a commencé par expliquer la Torah, les enseignements qui concernent les animaux, et ensuite seulement ce qui concerne l'homme. Bon, a priori, l'homme, c'est quand même le sommet de la création. On se serait attendu à ce que on commence par parler d'abord de l'homme, puis ensuite du monde animal. Alors, Rav Simlai dit, je t'explique pourquoi. Pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par parler, dans Parshat Shemini, elle a commencé par parler du monde animal, et c'est seulement maintenant dans Tazria qu'elle commence à parler de l'humain? C'est parce que, au moment de la création, c'est comme ça aussi. HaKadosh Baruch Hu, il a créé d'abord le monde animal, et au sixième jour, à la fin de la création, il a créé l'homme. Donc de la même manière qu'au moment de la création, l'homme n'est venu qu'après la création des animaux, ici aussi, la Torah qui concerne l'homme ne vient qu'après la Torah qui concerne les animaux. Ok, très bien. Mais on a simplement changé de question. La question c'est, effectivement, mais pourquoi dans la création, l'homme n'a-t-il été créé qu'après la création des animaux? Alors, une des réponses, c'est de dire que du point de vue de son corps, il est le plus nul. L'être humain, il est assez nul par rapport au monde animal. Dans le monde animal, les petits sont beaucoup plus rapidement opérationnels, même s'ils ne sont pas complètement opérationnels, mais beaucoup plus vite que l'être humain. Par conséquent, ce qu'il s'agit de, ça qu'on veut nous dire, puisqu'on va parler maintenant des simanim, les simanim, ils sont sur le corps. Donc, quand on parle du corps et la création, on a seulement parlé de la création de l'homme, mais il ne s'est pas encore du tout développé. Un niveau de la création du matériel, si vous voulez, à partir duquel l'homme va pouvoir se développer. L'homme, effectivement, Une réponse, c'est de dire que l'homme est effectivement bien inférieur au monde animal, en quelque sorte. Bon, alors disons que on peut se contenter pour l'instant de cette réponse-là. Rapporter ici ce que dit Rabbi Yocham à ce sujet-là, il ramène sur Rav Simlaï, donc Rashi a rapporté, et il dit dans la Gemara, on nous donne aussi d'autres raisons. La Gemara dans Sanhedrin, elle donne d'autres raisons, parce que évidemment pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire que la Torah de l'homme ne soit amenée ici qu'après la Torah du monde animal. Alors, puisqu'on parle ici des simanim, d'accord, on parle de la Torah de l'homme du point de vue des simanim. Alors, ici, quand on parle des simanim, c'est les simanim qui vont être sur le corps. Donc, de ce point de vue-là, on comprend bien pourquoi le corps de l'homme est cité après le corps du monde animal. Mais, en fait, il y a ici un grand principe fondamental. La Torah est la création, en fait. C'est une seule et même chose, puisque la création, elle a été faite sur le modèle de la Torah. Quand Chazal nous dit que il y a 613 mitzvot qui ont été données à Moshe Rabbeinu au Sinaï. 248 positives, 365 négatives. 248 positives, ça correspond au nombre de parties du corps. Il y a une description du corps, de l'anatomie du corps humain, dans laquelle on fait apparaître 248 parties, si vous voulez. Et Chazal disent que les 365 interdits, ça correspond en fait aussi à une partie des guidim, dit le Zohar, chez l'homme. Il y a une autre explication qui dit que c'est le nombre des jours de l'année solaire, mais pour en rester au corps humain, c'est aussi les guidim, c'est les tendons, les... Mais il ne s'agit pas ici simplement de, tiens, c'est une analogie intéressante. Voici. La chose ici, elles sont... Il faut les entendre comme elles sont dites, effectivement, parce que l'homme, quand il est créé, en fait, il y a dès le départ, dans la Torah, une comparaison, si vous voulez, entre l'être humain et les mitzvot, puisqu'on sait que d'après ça, c'est aussi une façon de nous dire les choses, de dire que si tu regardes le corps humain, on peut distinguer 613 points qui correspondent aux 613 mitzvot. Donc il y a une comparaison de mitzvot avec des parties du corps humain, que ce soit des parties du corps ou des guidim ou des tendons, etc., peu importe. Mais en tout cas, il y a cette comparaison de la création de l'être humain créé, tel qu'il est créé, et la Torah. Ça vient, quelque part, il y a cette correspondance, si vous voulez. Alors, il y a des endroits où, effectivement, on essaie d'expliquer à quoi correspond chaque partie, à quelle mitzvah correspond chaque partie du corps humain. Mais y compris quand on prend une oreille, on veut expliquer toutes les différentes parties de l'oreille, par exemple. Ou les doigts, etc. Et bon, que les 10 doigts, ça correspond, ça c'est connu, c'est le folklore. On dit les 10 doigts, ça correspond aux 10 sphirotes. Encore une fois, c'est pas simplement des ramazims, c'est pas seulement des allusions. Ça veut dire qu'en vérité, dans chaque partie du corps, c'est la partie matérielle de, si vous voulez, de l'intériorité de chaque mitzvah, de la mitzvah qui lui correspond. Vous avez une mitzvah, d'accord, qui a une intériorité. Cette mitzvah, elle va se faire d'une certaine manière avec le corps. Donc, quand le corps va faire cette mitzvah, c'est certaines parties bien précises qui vont être véritablement, même si le corps tout entier va éventuellement participer, mais c'est certaines parties qui vont être particulièrement sollicitées, un peu comme quand on fait faire certaines choses à certaines personnes, et en même temps on regarde dans le cerveau laquelle des parties du cerveau est éclairée en quelque sorte lorsque la personne fait telle ou telle opération. Poser la question, Rabbi Abraham qui pose cette question, étant donné que, si vous voulez, la Torah, elle est déjà complètement dans l'homme depuis sa création, puisqu'elle est son plan. Et puis on vient d'expliquer un peu comme ça, il y aurait cette correspondance. Alors la question qui peut se poser, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que la Torah donne de plus? Puisqu'on a déjà en nous-mêmes tout ce que la Torah. On a déjà toute la Torah en nous-mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une Torah qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Et la tshuva, la réponse, c'est que c'est vrai que la Torah, en vérité, d'une certaine manière, elle n'ajoute rien de nouveau. Elle n'ajoute rien de nouveau dans l'homme, si on veut parler comme ça. La différence qu'il y a entre le corps, enfin l'essence de l'homme et la Torah de l'homme, c'est que la même différence qu'il y a entre klal, c'est-à-dire un principe général, et des pratim et des détails. Quand il a expliqué les korbanot, ils sont écrits dans Parshat Vayikra. Et effectivement, l'on écrou beferouche beshem Torah. Et puis il y a d'autres, les korbanot qui sont dans la Parshat Vayikra, on dit pas zot Torah ta'ola ou des choses comme ça, alors que c'est ce qui est dit dans la Parshat Tzav. Dans la deuxième parasha, c'est marqué zot Torah ta'ola, zot Torah ta'chatot. Alors que dans Vayikra, on a parlé du Nola, on a parlé du Khatat, mais on n'a jamais parlé de la Torah de Khatat et de la Torah de la Ola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle et qu'on dit de quelque chose, qu'on utilise le mot Torah pour le finir, c'est quelque chose qui descend dans les détails. La Torah, c'est justement ce qui va permettre de descendre dans les détails. Dans la parasha de Vayikra, là-bas, c'est les choses sont dites de façon générale, des dinim en général. C'est pour ça que c'est pas marqué Zot Torah. Alors dans la parasha de Tzav, on entre déjà dans les dinim, dans le détail des dinim, alors c'est marqué Zot Torah, introduit la Torah. C'est ça la réponse à la question qu'on a posée. La Torah, c'est en quelque sorte, on peut dire, les détails. L'homme, dans sa création, lorsqu'il a été formé, il est un klal. C'est un ensemble. De façon générale, quand il y a un klal, c'est pas toujours évident de voir les détails de ce qui sont inclus dans ce klal. Parce que souvent, le détail ne ressemble pas directement au klal. Mais il joue un rôle dans le klal. Bon, mais il ne ressemble pas au klal. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si tous les détails étaient immédiatement reconnaissables par leur analogie, leur ressemblance avec le klal, ce serait facile de les déterminer. Mais ce n'est pas le cas. Là aussi, la différence entre, justement, la création de l'homme, l'homme tel qu'il a été créé, et la Torah de l'homme, bien sûr que ce sont des pratim, des détails, et que les pratim sont dans le klal, les détails sont dans le klal. Mais dans la Yetzirah, en général, on ne parle pas de la Torah en question. On parle de façon générale. D'une certaine façon, on peut entendre cette histoire de cette notion de prat et de klal, en fait, de détail et de généralité. On peut l'entendre quand Chazal nous dit sur Avraham Avinu, par exemple. Ils disent, la Gemara dans Yuma, elle dit qu'Avraham Avinu qui aime kol la Torah kula afilu eruv tafshinin. Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah, y compris Eruv Tafshilin, y compris les Derabanan, qui ont été décidés d'une façon qui n'était pas là directement, n'ont pas été donnés tout de suite, c'est dans le cours du temps, on a, les Chachamim ont décidé, voilà, ici il faut mettre une Xera, ici il faut mettre une, etc., mettre l'accent là-dessus, etc. Avraham Avinu qui aime et kol la Torah kula. Bah dans le Midrash demande, mais echal lamad Torah, lamad Avraham et la Torah. D'où est-ce qu'Avraham a appris la Torah? Rav Levi Amar, mais atzmo lamad Torah. De lui-même, à partir de lui-même, il a appris la Torah. Parce que l'idée c'est celui qui connaît la création de l'homme. Il connaît la Torah de l'homme, en fait. Et qui, comme Abraham, qui a écrit le, on dit qu'il y a un sefer qui s'appelle Sefer Yetzirah, le livre de la formation, il a attribué à Abraham Avinu. Donc il sait effectivement tous les secrets de la création de, à la fois du monde et donc de l'homme, effectivement. Donc il savait toute la Torah. Même Eruv Tafshilin aussi. C'est ça que Chazal veut dire quand ils disent ou qui aime kol la Torah, parce que toute la Torah, c'est Torah ta Adam. La Torah, c'est Torah ta Adam. C'est pas la Torah d'autre chose, c'est la Torah de l'homme. Et donc c'est ça que dit Rav Simlai. Que Shem shi yitzirato shel Adam. De même que la yitzira, la formation de l'homme, elle a eu lieu après la formation du monde animal. Au moment de Bréchit, donc. Et si, donc, si ça a eu lieu dans cet ordre-là, alors, finalement, dans la Torah aussi, ça doit être comme ça. D'accord ? La réalité de la création de l'homme, après celle, seulement après celle des animaux, car Torato nit parcha achar Torat be'emal chayavéof. Ichenu vadai be'echer, c'est sûr que c'est nécessaire que ce soit comme ça. Pas parce que, sous forme de, uniquement par rapport au simanim. Parce que la Torah et la Yetzirah, c'est une seule et même chose en vérité. Et le Midrash dit, effectivement, Rabbi Yochanan Omer, Arkiluso loba ela bacharona shneimar, Achayav, Chol Behema, Remes, Vesipo, Kanav, et seulement après, Malchei Eretz, Chol Leumim. Quand David Hameler décrit le monde entier qui dit la louange d'Hachem, il cite aussi l'homme seulement à la fin. Il cite d'abord que le monde entier dit la louange, tout dans le monde raconte la louange d'Hachem, et l'homme vient tout à la fin de nouveau. C'est tout ça, c'est la même idée toujours. Tout ça, c'est la Torah et la Yetzira de l'homme, la formation de l'homme et la Torah, c'est une seule et même chose en réalité. Simplement, l'un c'est le klal et l'autre c'est les détails. Alors, on pourrait dire, si vous voulez, pour que ce soit peut-être un peu plus concret, c'est ça la différence, si vous voulez, d'une certaine manière, entre la Torah écrite et la Torah orale. Dans la Torah écrite, on vous parle par exemple de Shabbat, on vous dit « Lota asekol melacha », tu feras aucune melacha. C'est un klal, c'est une règle générale. Les melachot, il y en a 39. Dans la Torah, on en cite une seule. Lot va'aru esh. Vous ne ferez pas de feu. C'est pas marqué du tout. Donc, on ne peut pas dire qu'on connaît le Shabbat si on ne connaît pas les 39 melachot. On ne sait pas non plus la partie oneg Shabbat. Il n'en est rien dit dans la Torah elle-même. Dans la Tfila, on dit vit angu. Ils vont prendre du plaisir avec le Shabbat, etc. C'est un oneg Shabbat, etc. Tout ça, c'est pas marqué dans la Torah. Mais tout ça, ça a été produit par la Torah orale. Donc la Torah orale, c'est justement cette descente dans les détails. Les détails des détails, c'est grâce à la Torah orale. On entre dans... À chaque fois, on va demander « Ketsad, comment ?» Comment, comme on vient de voir dans le shiur précédent. Ketsad, comment est-ce qu'on fait un kinyan avec un shtar? Alors, il faut me décrire exactement comment c'est un shtar, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un document, etc. Voilà. Donc, vous pouvez garder cette image, si vous voulez, cette idée de la Torah écrite qui, d'une certaine manière, reste à des idées générales, à des klalim, plutôt. Et les pratim, ils vont être développés par la Torah orale. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de séparer l'une de l'autre. C'est une façon de dire encore d'une autre manière qu'on ne peut pas dire du tout, comme je l'ai souvent dit, que c'est une erreur de penser que le judaïsme, c'est le peuple du livre. Bon, la Torah n'est pas un livre. Même si on l'a traduit en français par Bible, d'accord, mais la Torah n'est pas un livre. Pas un livre puisqu'elle n'est pas lisible. Elle n'est pas lisible par elle-même. Elle ne se prête pas à la lecture. Parce que si on n'a pas une Kabbalah, une tradition qui nous dit comment il faut lire, ben on ne sait pas comment lire là. On ne sait pas quelle voyelle il faut mettre, et on ne sait pas comment fabriquer des phrases avec les mots, puisqu'il n'y a pas de points et de virgules, etc. Donc c'est illisible, donc ce n'est pas un livre. Alors, pour revenir donc à ce début de Tazria. D'abord, donc, El Bnei Israël, les morts, Isha ki Tazria, Vialda Zahar. Une femme qui a été ensemencée, enfin, Tazria, c'est la chante Zera, donc qui est enceinte, en fait, et qui met au monde un enfant mâle, Zahar. Alors, on va donner son statut, on va dire que dès la naissance, elle devient Tmea, elle devient impure, pendant 7 jours, c'est ce qui correspond pratiquement donc à la même impureté que celle qu'elle contracte quand elle a ses règles, quand elle est nida. Et après, on est en train de parler de la touma de la mère. Oui. Bon, c'est un problème de savoir comment il se fait qu'il y a de la touma quand une femme met un enfant au monde. Une question, par exemple, que le Kotzke Rebbe, il a posé la question. Et l'Avné Nezer, il a expliqué cette question. Dans la Gemara, c'est marqué que la clé de la naissance, elle est chez Hachem. C'est Hachem qui décide quand un enfant naît. Pourquoi tout à coup il naît à tel et tel moment plutôt qu'à tel et tel autre moment? Ça, c'est Hachem qui a la clé. Alors la question qu'ils posent, eux, c'est comment ça peut donner de la Touma. C'est Hachem qui déclenche un processus, et la résultante de ce processus, c'est un état d'impureté. Alors, la réponse qu'on peut donner, c'est qu'il s'agit ici de... On va utiliser la même réponse que celle qu'on donne à la question qu'on peut poser sur la Touma d'un mort. Alors, on explique en général que pourquoi est-ce qu'un corps mort est impur? Ça vient de ce que les forces de la Touma, en fait, elles désirent coller littéralement là où il y avait de l'Akdusha. L'Akdusha, l'Akdusha divine, c'est la clé de la naissance, si vous voulez. Dès que cette Kedusha disparaît, puisque, voilà, l'enfant est né, après la mort ou bien après la naissance, alors les forces de Touma, de l'impureté, viennent, elles arrivent. Et la Touma, l'Eda, l'impureté consécutive à la naissance, elle montre justement que cette Kedusha divine, en fait, qui permet à l'enfant de sortir, c'est ce dévoilement ici qui entraîne la Touma. Il y a un dévoilement de cette Kedusha divine, en fait. Mais il faut dire que malgré le fait que pendant un certain temps, pendant 7 jours, elle va être impure, il reste, et puis ensuite elle devient pure, mais il reste une trace de cette Kedusha. Il va permettre à l'homme de remonter, c'est le processus de Tahara, de purification de la Yoledet, de la femme qui a accouché. Donc ici on nous dit que la femme qui vient d'accoucher, elle est dans un état d'impureté qui dure 7 jours. Et puis immédiatement on nous dit quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec cette impureté. On est dans la situation où elle a mis au monde un garçon. Alors c'est marqué au Bayom Hashmini, le 8e jour, donc quand la femme est sortie de son état d'impureté, Yimol Besar Orlato. On va faire la Mila de l'enfant. Si vous voulez, il y a ici une juxtaposition, si vous voulez, de la mitzvah de Mila avec le problème de la Touma de la mère. Et au point que Chazal vont dire, si un enfant, il a une mère qui a de l'impureté lors de la naissance, cet enfant-là, on lui fait la Mila. Et si sa mère n'a pas d'impureté, on ne fait pas la Mila. Une femme qui n'a pas d'impureté, Mila Torah, c'est pas une femme juive, une femme non juive. Pour l'enfant, on ne lui fait pas la Mila. Ici, ce qui est écrit ici, au Bayom Hashmini, Yimol Besar Orlato, c'est là la raison pour laquelle nous faisons la Mila le 8e jour. On ne fait pas la Mila le 8e jour parce qu'Abraham Avinu a fait la Mila de Yitzhak Avinu le 8e jour. Nous, on vit entièrement selon la Torah de Moshe. La Torah était donnée au temps de Moshe. Tout ce qui a été donné comme mitzvot, etc., ou compris comme mitzvot dans les générations d'avant, d'accord, y compris, par exemple, on a déjà parlé de cela, y compris les mitzvot que les Bnei Israël ont reçus à Mara, par exemple. Ils ont reçu le Shabbat à Mara. Mais le Shabbat, il est dit dans les 10 commandements. Donc, ce qui vous d'avaim, Amara, c'est dans les 10 commandements. On pourrait se répéter puisqu'il l'avait déjà reçu à Amara. Parce que les choses qu'on a reçues à Amara, c'est une espèce d'entraînement, ou éventuellement une épreuve, d'après le Rambam, mais ce qui nous oblige, ce à quoi nous sommes astreints, c'est les choses qui nous ont été données à partir de Matan Torah. C'est le commencement des lois. Et donc, curieusement, si vous voulez, au milieu de la description du processus de pureté et d'impureté consécutive à la naissance, on a glissé le problème de la mila de l'enfant, comme si ça faisait partie du processus, en quelque sorte, de purification. Parce qu'après, on dit, Bayom Hashmini, effectivement, Imol Sahor Lato, et ensuite on nous dit, Ushloshim Yom Ushloshet Yamim, pendant 33 jours, Techev Bidme Tahora. Pendant 33 jours consécutifs, donc, après ces 7 jours, il y a 33 jours pendant lesquels, même si la femme vient d'accoucher, même si la femme a des écoulements de sang, ce sang n'est pas impur. Là, la fin n'est pas comme ça aujourd'hui, hein. Mais ce sang n'est pas impur dans la Torah. Alors, bon, alors il y aura des limitations, en quelque sorte. Ça veut dire que elle va pas, elle peut pas manger les corbanotes encore, etc. Pas toucher la sphère de la Kdusha. Elle n'a pas le droit d'entrer au Beth Amigdash jusqu'à la fin de ces 33 jours de pureté. Si maintenant l'enfant est une fille, alors la mère, elle va être impure pendant le double, c'est-à-dire 14 jours, mais elle aura aussi le double de temps où, même s'il y a du sang qui coule, elle sera quand même pure. Elle ne sera pas interdite à son mari pendant 66 jours, du coup. Donc tout est doublé quand l'enfant est une fille. La partie d'impureté, mais aussi la partie de pureté. Et alors après, la femme, elle va apporter au verset 6, quand elle aura terminé toute cette période, que ce soit pour un fils ou une fille, elle apportera un korban. Keves ben shnato, elle va amener keves c'est un agneau, un cabri, d'un an, comme ola, ce sera un korban qui sera une ola, c'est-à-dire un korban qui va être entièrement consumé, ou ben yona otor, ou bien une colombe ou un pigeon, comme khatat, comme korban, khatat, el petahu el moed, el akohen, el apporta ça. Et ça va être approché par le kohen, et puis ça lui apportera la kapara et la pureté complète. Ça c'est le, voilà, zot torah tayoledet azaha olam kiva. Ceci est la loi de la femme qui a mis au monde un enfant mâle ou femelle. Et alors, c'est un korban un peu particulier, parce que ça peut être trop cher d'apporter un cabri, ou peut-être même une colombe, ça peut être trop cher à acheter, le jour des pères. Alors, il y a une halakha particulière qui dit que si la personne n'a pas les moyens de prendre ou bien un agneau ou bien une colombe, après ici non, c'est marqué que ça va toujours par deux, ou deux colombes ou deux pigeons, un qui sera comme pour le hola et un khatat, alors si elle ne le peut pas, elle ne suffit pas, elle n'a pas l'argent, alors au lieu d'apporter un animal, c'est-à-dire un agneau et une colombe, si vous voulez, elle va apporter seulement deux colombes. Elle ne devra pas apporter un cabri, mais simplement de la volaille. Et en fait, on va voir que ça s'appelle un corban qui et Olé Veyored, il monte ou il descend en fonction des moyens de la personne qui doit la porter. On verra que si quelqu'un n'a même pas l'argent non plus pour approcher une colombe, enfin des colombes, alors elle va apporter un peu de farine, faire une petite crêpe. Donc, c'est pas vrai pour tous les corbanotes, mais dans certains corbanotes, la Torah a fait des arrangements, en quelque sorte, pour des gens qui n'auraient pas les moyens de payer, d'acheter les corbanotes qui sont prescrits. Donc, il y a ce problème de Touma. Bien, l'autre grand sujet, effectivement, de ces parchiotes, là, l'autre grand sujet, c'est, on a dit, les Negaïm, je vous ai dit. Et les Negaïm, ils viennent pour, en particulier, ce qui est le plus connu, c'est qu'ils viennent pour le Lashon Hara. C'est les Simanim concernant le Lashon Hara. Pourquoi est-ce que Lashon Hara est sanctionné par Tzara'at? En fait, il faut dire que Tzara'at, c'est une impureté, c'est le top de l'impureté. Si quelqu'un est venu au contact d'un mort, le mort, c'est le degré de pureté maximale. Quelqu'un vient en contact d'un mort, où il se trouve sous le même toit qu'un cadavre, alors il devient impur, il a une procédure, mais il va être exclu, il n'aura pas le droit d'entrer dans ce qu'on appelle Mahane Shrina. Si vous voulez, autour du Mishkan, il y avait un premier cercle, si vous voulez. Ça s'appelle Mahane Shrina, le camp de la présence divine, là où étaient les Kohanim. Un deuxième, là où étaient les Levim, un peu plus large. Et un troisième, où était tout le clan d'Israël. Alors, celui qui est devenu impur par contact avec un mort, ne peut pas entrer dans le camp le plus intérieur. Et celui qui a eu des écoulements, celui-là, il est exclu de deux camps. Mais le Metzora, il est exclu de tous les camps. C'est-à-dire, on le met dans une quarantaine absolue, si vous voulez. C'est une façon de... D'ailleurs, on dit d'ailleurs que celui qui est Metzora, il est Khashuv Kemet. C'est une forme de mort. Alors, c'est une mort sociale. Parce que il est complètement confiné à l'extérieur de tous les trois camps. Il n'y a personne. Personne ne peut lui parler. Alors, la raison pour laquelle la sanction est extrêmement forte, c'est parce que le Lashon Hara, ça casse la société. Il y a des formes diverses, il y a le Lashon Hara, mais au sens plus large, il y a le Lashon Hara, il y a le Motzi Shem Ra, il y a la délation, etc. Je vous ai déjà dit souvent, je crois que Moshe Rabbeinu, il avait une question en Égypte, il s'était demandé pourquoi les Bnei Israël souffraient tout tellement. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, pourquoi ils souffrent? Et il avait une question, il n'y avait pas de réponse. Mais quand Dathan et Aviram l'ont dénoncé, quand il a compris que ces deux-là allaient le dénoncer à Paro parce qu'il avait tué l'Égyptien, il a dit « Ah, s'il y a des délateurs dans le clan d'Israël, j'ai plus de questions. » Parce qu'en réalité, dire qu'il y a des délateurs dans une population, c'est dire qu'il n'y a plus de population, il n'y a plus de peuple, en fait. Parce que les gens sont... On va casser complètement... dire du mal de celui-ci à celui-là, etc., on va casser la société complètement. C'est pour ça que on lui fait faire l'expérience de tu vas vivre sans aucune société. Donc, tu verras qu'en vérité, c'est une forme de mort. Maintenant, si on se pose la question, mais finalement, d'où vient le Lachonara? D'où est-ce que ça vient que c'est tellement difficile, en fait? Le Lachonara, la Gemara, elle dit clairement que pratiquement tout le monde se casse la figure sur le Lachonara. Alors, c'est, le Lachonara, c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de dire. Le Lachonara, c'est on n'a pas le droit de parler. Il ne s'agit pas de dire de l'interdit de dire du mal. Le dire du mal, c'est une autre affaire. Que tu as interdit aussi. Mais même si tu dis aucun mal, mais tu dis les choses qu'on ne t'a pas dit explicitement que tu pouvais les dire. C'est dans le Lachonara. Sauf si ce que tu dis ou ce que tu entends, parce qu'on est aussi dans un état de transgression du Lachon Hara, si on écoute le Lachon Hara. On n'en dit pas, on en écoute seulement. Il y a des citations où, suivant dans quel groupe on se trouve, normalement, il faut quitter le groupe. Ne pas dire, j'en tiens pas compte de ce que dit la personne, etc. Non, tu dois partir. Si tu restes, tu es déjà rien. Alors la question qui se pose, c'est d'où est-ce que ça vient, ce problème du Lachon Hara, c'est quoi exactement? Alors les Chachamim disent que la racine du Lachon Hara, c'est la Gaava, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, bon, c'est cet état de gassout avoir, de grossièreté de l'esprit au sens d'un tissu grossier, c'est-à-dire aucune finesse. C'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas qu'il n'est pas Dieu sur terre. Celui qui est orgueilleux, c'est celui qui se prend pour Dieu, en fait. Alors, il n'est pas tout de suite repérable. C'est pas un bonhomme qui se balade en disant « je suis Dieu ». Mais il se conduit comme s'il était Dieu. Il se conduit pour, sans arrêt, parler les uns, les autres, expliquer la conduite des gens, etc., dire des choses qu'on lui a pas. Vous voyez, c'est très compliqué parce que la caractéristique de l'homme, c'est de parler. C'est un être parlant. D'accord. Et au fond, Chazal disent « Ma umenuto shel adam ba'olam hazeh ». C'est quoi l'artisanat de l'homme dans ce monde? Ça veut dire, qu'est-ce que l'homme doit faire dans ce monde-ci? Alors la réponse est « Yassim atzmo ki'ilem ». Il faut qu'il se conduise comme s'il était muet. Alors la Gemara demande, c'est pas tout. La Gemara demande, mais alors, est-ce qu'il faut être aussi muet par rapport aux paroles de Torah? Non, on dit, dans les paroles de Torah, c'est marqué Vedibarta Bam, ce que nous disons dans le chemin. Dans Bam, dans les divrei Torah, là tu parles, là tu dois parler, tu peux et tu dois parler. Ça veut dire que la bouche nous a été donnée pour dire des divrei Torah. Alors, au sens plus large, tout ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir être, pouvoir vivre et étudier justement et pouvoir parler le livre de Torah, c'est aussi permis. C'est-à-dire que on peut parler. Maintenant, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des gens effectivement qui ont dit ça sur le petit frère de la prime de Vologine, de Nefesh HaChaim. C'est que lui, il ne parlait que par divrei Torah. C'est-à-dire que quand il voulait quelque chose, il citait une Gemara ou un Midrash, etc., qui parle de cette chose-là. Ça implique qu'il vivait dans une famille où les gens comprenaient à mi-mot ce qu'il disait. Voilà. Mais ça, c'est l'exception. Mais normalement, si vous voulez, C'est là qu'on voit qu'il y a une certaine valeur, par exemple, à la notion de Tanit Zibour, comme faire un temps pendant lequel on s'abstient de parler. Quoi, une heure ou un jour où on s'abstient de parler. Il y a des gens qui, effectivement, Shabbat, ils ne parlent pas autre chose que du livre étroit. Ils font pas ça toute leur vie, mais le Shabbat, ils font attention. Ça demande une maîtrise de soi, effectivement, mais il faut s'entraîner. La vérité, c'est que, y compris par rapport au Lashon Hara, pour ne pas dire Lashon Hara, il faut s'entraîner. Il faut se méfier, il faut s'observer, éventuellement demander à quelqu'un de nous aider à nous observer. Quand nous disons du Lashon Hara, que quelqu'un nous fasse remarquer qu'on est en train de dire du Lashon Hara, faut qu'on arrête tout de suite. Jusqu'à ce que ça devienne naturel de parler sans dire du Lashon Hara. Et donc, ici dans la Torah Ta'adam, on parle ici de la caractéristique de la Torah, la gouvernance de l'homme par lui-même, donc, c'est de faire très attention à sa parole. Et on voit tout de suite, ça fait des simanim. Il y a des signes, justement, qui montrent que, quelque part, tu n'es pas à la hauteur à laquelle tu devrais être. Puisque quand tu dis du Lashon Hara, on te met un signe comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et on dit, par exemple, que la lèpre des maisons, si on constate la lèpre des maisons, alors il y a une mise en quarantaine, on observe, etc. Mais si finalement on décide que cette maison doit être détruite, il faut détruire la maison, mettre toutes les pierres au sol, en quelque sorte, on nettoie tout ça, et on reconstruit la maison. La Gemara, elle demande, mais spécifiquement, c'est quoi qui entraîne la destruction éventuelle d'une maison parce qu'il y a des signes. C'est pas à cause du Lashon Hara que la maison elle est détruite. Le Lashon Hara, il se manifeste sur la peau. Sur la maison, qu'est-ce qui se manifeste quand la maison est détruite? Chazal disent, c'est ce qui s'appelle Sarut Aïn. C'est-à-dire, littéralement, c'est l'étroitesse de l'œil. Il y a des gens, quand ils voient quelque chose chez l'autre, ça leur fait mal aux yeux. Même si eux, ils ont plus, ou même, ils ont exactement la même chose, ils ont plus, etc. Mais de le voir chez l'autre, ça leur fait mal aux yeux. Ça, c'est de la radinerie, en quelque sorte. C'est aussi le fait de, la Gemara, elle donne comme exemple, elle dit, quelqu'un refuse toute solidarité, ça veut dire, le voisin, il vient, il dit, j'ai besoin d'un marteau, parce que mon marteau, il est cassé, tu peux me prêter ton marteau. Il dit, moi, j'ai pas de marteau. Tu veux pas lui prêter son marteau. Alors, dit la Gemara, quand sa maison sera ouverte, quand on l'aura détruit, on verra le marteau. On verra bien qu'il avait un marteau. Donc ce sera clair et net qu'en fait c'est par radinerie qu'il n'a pas voulu lui prêter. Pas vouloir prêter. Donc c'est intéressant de voir que c'est une des caractéristiques qui est exigée de l'homme, d'accord, d'aider son prochain. Tu peux l'aider, tu dois l'aider. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'aider son prochain s'il est un dealer, on n'est pas obligé de, etc. Mais si c'est quelqu'un de normal, qui se conduit normalement, on a l'obligation de l'aider. Surtout s'il vient demander. En vérité, on devrait aller vers lui et lui proposer, si on sait qu'il lui manque quelque chose. Mais en tout cas, si lui vient demander, lui dire à faux, alors que c'est faux, dire qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas l'aider, etc. Bon, ça, c'est gravissime. Et d'une certaine manière, ça veut dire que c'est comme la Shona, tu casses la société. La société, elle est basée, Une bonne société, c'est une société dans laquelle on peut prêter ses choses. Ça veut dire qu'on est en confiance avec son voisin. Je lui prête, je sais qu'il y prendra soin et qu'il me le rendra. Évidemment que quand j'ai fait 100 fois l'expérience, quand tout ce que je lui prête, il le casse ou bien il me le rend pas, je suis pas obligé de, on n'est pas obligé d'être idiot. Mais a priori, on doit aider son prochain. Et ne pas l'aider, ça disqualifie complètement de la même manière que ça disqualifie complètement quand on dit du lashon hara. Donc les deux parchiot ici, elles parlent de cette question en quelque sorte, parce qu'en réalité, il y a deux alliances entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et on parle de ces deux alliances en disant que c'est le Brit, la Brit Mila, et aussi le Brit du Lashon Hara. C'est-à-dire que l'otaturu achrel vavchem ou achrel vavcha, l'otaturu achrel vavchem, d'accord, ce sont des paroles aussi qui sont le dévoilement de ce qu'il y a dans le cœur. La parole est considérée comme une façon de montrer ce qu'il y a dans le cœur. Et le lieu, en quelque sorte, le lieu de la parole, en fait, de ce qui permet la parole, c'est-à-dire le ruach, le souffle. Pas la parole, c'est la notion de ruach. Dans nefesh, ruach, neshama, ruach, le souffle, l'esprit, si vous voulez, le souffle, c'est quelque chose qui est hébergé dans le cœur, en quelque sorte, qu'on dit un souffle au cœur. Ça veut dire, en fait, c'est pas... En vérité, on veut dire par là que le lieu du ruach, la source, en fait, du lachon, de la parole, etc., le lieu du ruach, c'est le lèvre, c'est le cœur. Donc, ne suivez pas votre cœur, ça veut dire, faites attention au ruach, et faire attention au ruach, c'est ce qui permet de faire attention à la parole. Donc, il y a un brit sur la parole. Un brit, une alliance avec Hachem concernant la maîtrise de la parole, comme il y a une alliance avec Hachem par la Mila, qui est la maîtrise, effectivement, en principe, la maîtrise des pulsions, de Yirur Halev, des pensées, c'est-à-dire de mettre des limites. Le problème des limites ici doit être, c'est ça la Mila, c'est montrer qu'il y a des limites, en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur les deux archiotes.